L'histoire nous est à la vérité indispensable pour nous définir nous-mêmes par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité.
Barthélemy Boganda, Centrafrique, année zéro.
Moi-même qui vous parle, je suis né congolais, je suis devenu ubangien et aujourd'hui je ne sais plus ce que je suis. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le terme République centrafricaine pour désigner ce pays de l'Ubangi-Chari.
Le premier président avant même l'indépendance. Son père avait été assassiné dans une opération militaire. Sa mère, battue à mort parce qu'elle n'avait pas porté de quota de caoutchouc à la compagnie concessionnaire. L'enfant que l'Église élèvera et prénommera plus tard Barthélemy avait été retrouvé errant au milieu de nulle part. Au XIXe siècle, nos cartes de la Lune étaient plus précises que celles du centre de l'Afrique. Et en 1910, quand Boganda vient au jour, la colonie de l'Ubangi-Chari, que la France a constituée en joignant le bassin de l'Ubangi à celui du Chari, n'est qu'une zone improbable, sous-administrée, aux contours incertains. L'histoire lui a été cruelle, elle a été traversée par les razzias des sultans esclavagistes et la colonisation leur a substitué la brutalité des expéditions militaires et une orgie de concessions. Le jeune Boganda grandit dans un pays dépeuplé, une ombre de pays. Il devient en 1938 le premier prêtre indigène de l'Ubangi-Chari. Et quand, après la Deuxième Guerre, il faut bien faire évoluer l'Afrique équatoriale française, il en devient le député au Palais Bourbon. Il siège sur les mêmes bancs que l'abbé Pierre et lui aussi connaît une métamorphose. Il était le plus beau fruit de la colonisation et il passe bientôt pour un agitateur. Mais l'agitateur devient un arbitre et l'arbitre un interlocuteur immensément populaire chez les Noirs. « Moi, Boganda, j'ai dit à De Gaulle, je t'appelle mon semblable. » Et De Gaulle a répondu, « Moi, De Gaulle, j'ai dit oui. » Boganda voulait sous le toit de l'amitié franco-africaine une grande maison. Il rêvait d'une république centrafricaine 10 fois plus grande et plus forte que celle de format réduit qui s'est finalement constituée à partir du pauvre Ubangi-Chari.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Pierre Tucois, bonjour.
Bonjour.
Longtemps journaliste au Monde et auteur de nombre de livres sur plusieurs pays d'Afrique. Je dis ombre de pays, alors vous, au risque de choquer certains centrafricains, vous avez choisi pour votre nouveau livre, aux éditions de La Découverte, un titre encore plus provocateur.
Parce que je dis que le pays qui n'existe pas, qui n'existait pas plutôt. Parce que je crois que c'est vrai au fond. Je crois que ce pays a été constitué de briques et de brocs par les Français lorsqu'ils sont venus dans le centre de l'Afrique, ce qu'on disait à l'époque le grand blanc au centre de l'Afrique. Donc ils ont taillé des frontières tout à fait artificielles avec en face les Belges, les Anglais, un peu plus tard les Allemands. Donc tout ça a été fait dans une improvisation totale sans du tout se soucier des peuples qui habitaient ces régions-là. Donc évidemment, c'est un ensemble très artificiel. Et malheureusement, 50 ans après l'indépendance, le pays ne s'est pas vraiment constitué et à mon avis n'existe toujours pas.
Alors cependant, vous avez lu beaucoup de sources écrites, on a beaucoup écrit.
Il y a beaucoup de choses, oui.
Sur l'Ubangi-Chari, l'histoire se fait par l'extérieur. Vous décrivez le musée, maintenant pillé, vidé d'à peu près tout. Et vous insistez cependant sur la richesse de la mémoire orale. Quand le grand David Van Reybrouck écrit sur le Congo, il raconte qu'il a entendu un vieillard lui raconter comment il avait vu Brazza sur les pistes parallèles au fleuve Congo avec ses porteurs qui portaient des bateaux sur le dos. Ça veut dire qu'il y a un homme de 110 ans qui peut parler et ça a de la valeur.
Ça a de la valeur. Et moi-même, quand je suis allé là-bas, je suis allé pour des reportages et pour l'écriture du bouquin, évidemment, j'ai rencontré également des centrafricains. Ils n'avaient pas 110 ans, mais ils n'étaient plus très jeunes non plus. Et qui me parlaient d'événements qui avaient plus d'un siècle, comme s'ils y avaient participé. Ils m'ont raconté la mort du quasiment fondateur de Bangui, lorsque Bangui n'était qu'un poste militaire, mais donc qui remonte à la fin du XIXe siècle. Mais à les écouter, on a l'impression qu'ils avaient participé eux-mêmes à la mort de ce malheureux militaire. Et donc, évidemment, ça donne des récits qui ont une valeur historique approximative, mais formidable quand même.
En revanche, il ne faut pas beaucoup compter sur les sources orales de la radio. La radio est à l'épicentre des tremblements de terre politiques réguliers du pays. Cependant, on va utiliser au long de cette émission des copies d'émissions trouvées un peu en vrac à Radio Centrafrique par Élodie Maillot, qui d'ailleurs a interrogé, avant de faire avec autorisation ses copies, le directeur d'alors, Philippe Yangakola.
Vous écoutez le journal de Radio Centrafrique.
Quand tu veux parler, et quand tu veux qu'on t'enregistre, ou tu veux qu'on couvre tes événements, on va le faire avec quel matériel, puisque tout est déjà cassé. On a eu tellement de problèmes avec nos équipements que je suis obligé de modifier certains modules ou amplificateurs, juste à ma manière, à ma façon, quoi. Donc, même celui qui a construit l'appareil, même s'il se retrouve, il voit l'appareil et qu'il veut l'exploiter, il ne pourra pas se retrouver. Parce que je l'ai modifié, n'ayant pas de pièces de rechange, n'ayant pas de module de secours, je peux prendre un autre module sur une autre marque et puis je peux faire une adaptation et mettre dessus.
Voilà, une adaptation, on prend un module d'une marque, on met sur l'autre. On va aussi bricoler avec ces sources recueillies par Élodie. C'est une des responsabilités de la France, d'ailleurs, que de sauver les archives des radios qu'elle a contribué à fonder. C'est arrivé à Radio France de s'occuper de telle ou telle d'entre elles. On va parler au conditionnel au début, Jean-Pierre Tucquois. Ça aurait pu être une région centrale, vraiment, et c'est un cul-de-sac. Je parle des années qui ont précédé la naissance de Boganda.
Oui, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, parce qu'à la fin du 19e siècle, lorsque tous les pays européens se précipitent sur l'Afrique, sur le centre de l'Afrique en particulier, les Français ont une ambition, et une seule, c'est rejoindre, en gros, pour aller vite, rejoindre leurs possessions de l'Ouest, le Sénégal et toute cette région-là, le Gabon, leur faire rejoindre l'autre partie, l'Éthiopie et toute l'Afrique de l'Est. Et si ça avait marché, effectivement, le Centrafrique aurait été au centre de l'Afrique et je pense aurait eu une... l'histoire aurait été différente. Ce qui s'est passé, c'est que les Anglais ont bloqué les Français et du coup, le Centrafrique ou l'Oubangui-Chari, qui aurait pu être véritablement au centre de cette grande route, finalement s'est retrouvé être dans une impasse et n'ayant plus beaucoup d'intérêt pour la France.
Qui a demandé à la colonie de s'auto-financer elle-même, et les concessionnaires ont provoqué des hécatombes d'éléphants, et les concessionnaires de caoutchouc, des hécatombes d'hommes. C'est dans un pays très dépeuplé que Boganda est élevé, il est recueilli par l'Église, il va passer de congrégation en congrégation.
Il va changer congrégation, il va aller dans tous les pays de la zone française, au Cameroun, au Congo, enfin, il va étudier, donc il va étudier. En Oubangui-Chari, il n'y a pas d'école, il n'y a rien, il n'y a pas de séminaire, donc il est obligé, les autorités l'envoient dans les séminaires qui sont dans les pays voisins.
18 ans d'études.
18 ans d'études.
Ouais. Avec le latin.
Avec le latin, la théologie, enfin il fait quelqu'un qui ne savait pas parler, qui a été recueilli par des militaires français confiés à des missionnaires, ce gars-là va ingurgiter tout ça pendant 18 ans.
Le père Ferraré, le jour de ses obsèques, dit ceci. Écoutez bien, parce que c'est un hommage à partie double.
Mais il était grand, surtout à nos yeux de chrétiens, parce qu'il était prêtre, l'élu de Dieu. Dieu l'avait appelé le premier des enfants de ce pays. S'il s'est séparé de la discipline de l'Église, il n'a jamais renié cette Église, ni encore moins son Dieu et sa foi.
Archive Radio Centrafrique, le premier à devenir prêtre indigène en 1938, et c'est un curé étonnant ensuite.
C'est le premier, et le second, celui qui viendra le deuxième prêtre, n'arrivera que 18 ans plus tard. Donc pendant toute cette période, c'est l'unique prêtre noir à Oubangui-Chari. Et évidemment, quand il est ordonné prêtre, il est envoyé en province et là, il va se comporter de façon très étonnante. Il est vraiment animé d'une foi. Il veut, par exemple, brûler tout ce qui a trait à la sorcellerie, les masques africains. Enfin, tout ça, c'est un combat qu'il mène à l'époque. D'ailleurs, l'Église n'est pas du tout sur la même ligne. L'Église a évolué là-dessus et Boganda fait un peu figure de croisée. Et il va faire ça pendant des années, tout en ayant des rapports avec sa hiérarchie qui sont compliqués.
Oui, parce que il n'est pas impossible qu'il ait eu déjà une première liaison et de premiers enfants. Ouais. Mais passons, parce que quand, en 1946, il faut trouver des députés qui sont élus par les évolués pour faire partie dans le cadre de la nouvelle Union française du Palais Bourbon à Paris, ben, l'évêque de Bangui lance dans le champ Boganda, qui est élu, et alors qui va s'émanciper dès qu'il arrive à Paris, une métamorphose.
Complètement, complètement. Lui est arrivé à Paris, c'est la première fois qu'il va en France. Il découvre un pays où finalement il voit des Blancs qui le servent au restaurant, des Blancs qui balaient les rues. Enfin, un spectacle qui était impensable à Nubanguichari, où ce sont les Noirs qui font tous ces travaux-là, et les Blancs commandent, et les Noirs obéissent. Il se rend compte qu'en France, c'est pas pareil. Il se rend compte surtout qu'au niveau des idées, il y a une gauche en France, qu'il y a des gens qui se bagarrent contre la colonisation. Et donc, ce prêtre-là, qui était donc chaperonné par l'Église officielle, chaperonné par les milieux MRP, donc la droite, on va dire.
On va dire les démocrates chrétiens.
Les démocrates chrétiens. Bon, d'accord. Donc, qui est chaperonné par les démocrates chrétiens, va peu à peu va changer et va virer à gauche. Ouais. Et ses nouveaux amis, ça va plutôt être des gens proches du Parti communiste.
Le MRP lui avait fourni une assistante, blanche bien sûr, ouais, qu'il va épouser et dont il va avoir trois enfants, grand dame de l'évêque de Bangui, qui commence à le considérer là-bas, en Centrafrique, comme un agitateur. Mais d'agitateur, il devient arbitre, il devient interlocuteur. C'est l'interlocuteur du général de Gaulle.
C'est l'interlocuteur du général de Gaulle, c'est la figure intellectuelle numéro un dans la colonie française.
Vous vous souvenez de l'affiche dont vous parlez dans votre livre, Nubanguichari, un pays qui n'existait pas, une affiche où d'un côté il y avait « Moi Boganda, je dis », et puis de l'autre Gaulle, côté il y avait « Moi de Gaulle, je réponds ».
Je réponds et je réponds oui.
Ouais.
Donc c'est
« Moi arrêtes... Boganda, je dis indépendance, moi de Gaulle, je dis indépendance ».
Indépendance. Ouais. Et comme ça, ça continue, comme ça, sur toute une... Ouais. Il savait parler aux gens, incontestablement, et d'où sa popularité.
Alors la grande maison dont il imaginait que la France continuerait à construire la toiture, devait être vaste, et il voulait un État aux dimensions de l'ancienne Afrique équatoriale française, c'est-à-dire avec le Tchad, avec le Gabon, avec le Congo-Brazza. Oui.
Je crois que c'est finalement ce qu'on doit garder de l'idée de Boganda, enfin de Boganda, c'est cette vision. C'était un visionnaire, et il voyait bien qu'en Europe, on était en train de construire ce qui est devenu aujourd'hui l'Union européenne, et lui avait compris, il a écrit, répété, que les pays d'Afrique, les pays des anciennes colonies françaises, et même au-delà, n'avaient aucun avenir si elles restaient seules dans leur coin. Qu'il fallait qu'elles s'unissent, et lui, son rêve, c'était donc de créer les États-Unis de l'Afrique latine. Donc, dans un premier temps, il voulait réunir les quatre pays, le Tchad, le Gabon, l'Ubangui-Chari et le Congo, et dans un deuxième temps, il voulait y ajouter une partie du Congo-Kinshasa, plus, enfin, tous les pays catholiques.
Mais ça ne plaisait pas à chacun des leaders de l'indépendance de chacun de ces pays. Le Gabon voulait garder les richesses dont il commençait à faire l'inventaire. Et puis à Paris, je ne sais pas ce qu'en pensait de Gaulle, mais enfin, Jacques Faucard préférait le conseiller de Gaulle.
Des républicaines, disait-il. Ouais. Oui, parce que d'une part sur place, les Africains n'en voulaient pas parce que c'était trop tard, il y avait déjà des postes, des parlementaires, etc. etc. Et en France, on voulait des pays faibles.
On sent déjà dans cette archive, Radio Centrafrique, octobre 58, où on entend un adjoint de Boganda qui va jouer un rôle important ensuite, David Dacko, que ça branle dans le manche.
Le président Boganda a jugé opportun de prendre contact avec les autres territoires de la Fédération en vue d'arrêter un programme commun. Le problème est posé. Il faut constituer un État unifié d'AIF. Les leaders politiques du Tchad, comme ceux de l'Ubangui-Chari ou du Gabon, vont se réunir en vue de se réunir à nouveau avec les leaders politiques des autres territoires autour d'une table ronde pour prendre une décision définitive.
David Dacon, on va se réunir en vue de se réunir. C'est perdu, quoi, déjà.
Oui, c'est perdu. On voit bien que c'est perdu. Et ça sera perdu. C'est vraiment dommage. Je pense que là, il y avait une opportunité, mais ça arrivait trop tard. Il aurait fallu faire cette union bien avant l'indépendance.
Alors, il en reste le dessin d'un drapeau par Boganda. Alors, si je vous lis le jaune...
Le jaune, c'est pour l'or et le sable.
De Lubangui, Chari. Le blanc...
Le blanc, c'est pour le coton du Tchad.
Le bleu...
Le bleu, c'est pour le... Il y a deux interprétations, soit c'est le fleuve, soit c'est l'océan qui borde le Gabon.
Oui, ça c'est le Congo-Brazza.
Congo-Brazza.
Pour parler comme l'administration française. Et puis alors le vert.
Le vert, c'est la forêt équatoriale qui baigne plusieurs de ces pays.
Et puis il reste l'hymne officiel. Alors vous avez eu connaissance, cet hymne officiel est rédigé par Boganda lui-même.
Oui.
Vous avez eu connaissance d'une version avec Boganda chantant.
Boganda chante, il a son directeur de cabinet qui est au piano, qui l'accompagne. Et la musique a été d'ailleurs composée par un Français, qui a composé la musique de plusieurs États africains d'ailleurs.
Alors nous, on a cette version archive Radio Centrafrique, sans Boganda, semble-t-il, mais avec des enfants. Et puis c'est pas seulement en français, vous allez entendre après le français, le sango, qui est une des langues de Centrafrique.
Qui est la langue nationale.
Et lui parlait plusieurs langues de Centrafrique.
Il parlait une demi-douzaine de langues, oui.
Un, deux, au Centrafrique, au berceau des Bantous. Repente-toi au respect à la vie. L'OTAN soumis, l'OTAN veut mais pas tous. Mais de ces jours, brise à la tyrannie. Dans le travail, l'or et la dignité. Tu reconquêtes ton droit de la dignité. Et on franchit cette étape nouvelle de nos ancêtres, la voix nous appelle.
Sango.
Centrafrique, Johnny Kodrotiye, Fade Sobe, Tiye Kweginangia, Banga Tiso, Moziye Kwenangba, Ginangangu, Tiamolenge Timo. Isa la kwa kwe nata betiye, kwa timbeti wala kwa tiyaka. Ikembeni, oko jisenge pepe, kwa tibuba, yeke oko pepe. Siyeye aedro tiye kwe biani, siriye aitati mara kwe. Siye warangangu tikbu kodroni. Ekwe beau drapeau du Centrafrique.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Pierre Tucquois qui publie aux éditions de La Découverte, Lubangui Chari, le pays qui n'existait pas, comment on est passé. C'est notre thème aujourd'hui avec Barthélémy Boganda, de Lubangui Chari à la République centrafricaine dont on sait le malheureux destin qui l'attendait. À la cérémonie de l'indépendance le 12 août 1960, on a chanté, j'espère mieux, cet hymne de l'indépendance. Il y avait Malraux.
Il y avait Malraux.
Alors Malraux, il était commis, dites-vous, à la tournée des indépendances.
Oui, parce qu'en une semaine, il a fait une dizaine de... Il a donné l'indépendance à une dizaine d'États. Donc c'était incroyable d'ailleurs comme cérémonie. Il était la veille au Tchad, le lendemain il était à Bangui, le surlendemain il passait à Brazza. Donc il a fait ça, il a enchaîné les indépendances les unes derrière les autres.
Les indépendances des pays balkanisés, comme vous le dites.
Des pays balkanisés.
Mais ce qui est étonnant, c'est que ses discours faisaient 1 minute 30.
1 minute 30, montre en main. Et c'était quasiment le même discours qu'il a prononcé en toutes les capitales, avec quelques variantes, mais les gens ne pouvaient pas le savoir. Et puis il n'était pas accompagné de journalistes comme aujourd'hui, donc tout ça s'est fait.
Et Boganda n'était pas là.
Et Boganda n'était pas là parce que Boganda était mort. Et Boganda était mort dans un accident d'avion, alors qu'il faisait une tournée pour faire la promotion de l'indépendance. Et l'avion dans lequel il était a eu un accident, a été pris dans un orage et s'est abattu dans la forêt. On a retrouvé les corps plusieurs jours plus tard.
L'équipage, les passagers.
Oui. Il y avait une dizaine de personnes au total. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pendant... Des années, la plupart des Centrafricains sont restés convaincus qu'ils n'étaient pas morts, en fait. Alors, il y a eu toute une série de... Il y a eu tout un tas d'hypothèses qui ont circulé, mais les gens étaient convaincus que les Français l'avaient kidnappé, en quelque sorte, et qu'ils le tenaient... Enfin, qu'il l'avait exilé, alors c'est allé jusqu'à dire qu'il était en Guyane. Et tout ça, jusque dans les années 80, on trouve encore aujourd'hui sur Internet, d'ailleurs, des gens qui sont convaincus que Boganda n'était pas mort.
Alors vous, vous êtes allé voir l'épave?
Je ne suis pas allé voir l'épave.
Vous dites qu'elle est visible, néanmoins.
Oui, elle est visible. J'ai rencontré quelqu'un qui est allé la voir, qui m'a raconté comment ça se présentait. Mais en revanche, ce que j'ai lu, c'est le rapport d'enquête. Il y a un rapport d'enquête qui a été fait par les autorités françaises, les autorités d'aviation civile, qui est formel. C'est pas un attentat comme certains, comme beaucoup l'ont cru. C'est un véritable accident. Il se trouve que cet appareil-là, c'était un Nord-Atlas. Il avait un défaut de conception. Il avait été modifié. Il avait un défaut de conception qui fait que, dans des circonstances un peu particulières, comme dans un orage, il était très fragile. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi les autorités françaises n'ont pas voulu reconnaître ça? Pourquoi elles n'ont pas publié le rapport d'enquête alors qu'elles s'étaient engagées à le faire? Pour une raison très très simple, c'est que il y avait des enjeux commerciaux. La France était en train de négocier des contrats importants pour vendre cet appareil, et donc Paris n'a pas jugé utile de publier le rapport. Moyennant quoi, donc...
Donnons le nom de l'appareil, parce qu'il faut lui faire de la publicité.
C'est en Nord-Atlas.
Oui. Mais qui était ennemi de Boganda dans l'hypothèse où il y aurait eu un accident télécommandé?
Il y avait énormément. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup d'ennemis, y compris... Enfin, pas tous d'ailleurs en Ubangui-Chari, pas tous en Centrafrique, mais même au Congo voisin, le Congo-Kinshasa. Il y avait beaucoup d'ennemis parce que son projet de créer les États-Unis d'Afrique centrale, d'Afrique catholique, évidemment, ça allait englober à terme, ça devait englober à terme une partie donc du Congo Zaïre. Et donc tous les colons, enfin les décolons de ce pays-là étaient contre lui. Il avait reçu des menaces de mort. Dans son camp lui-même aussi, il avait des ennemis. Quelqu'un a travaillé sur le nombre de gens qui avaient intérêt finalement à le voir disparaître. Il y en a dénombré 17. Donc évidemment, c'est beaucoup. Et ça laissait sous-entendre que ce n'était pas un accident. Mais en fait, c'était un accident. Il est mort dans un accident.
Survenu si brutalement et dans des circonstances aussi dramatiques, la disparition de M. Barthélemy Boganda laisse dans son pays un vide cruel et plonge dans le désarroi non seulement ses nombreux amis et ses militants fidèles, mais une population tout entière pour laquelle le dimanche de Pâques 1959 restera désormais un tragique souvenir.
Jacques, reporter de Radio Bangui, venir à décrire la cérémonie de quoi avion sur le président Boganda à Wala. Pas de sou et que la cathédrale Notre-Dame de Bangui. Nous sommes là devant la cathédrale ni, côté tribune de Vourou et Keda. À la salle encore, mais ni que te drapeau de la République centrafricaine.
Le parvis a été prolongé par une estrade blanche, également décoré aux couleurs des deux républiques, parvis sur lequel tout à l'heure viendront prendre place le corps des victimes. Débouchant de la rue du commandant Marchand, voici maintenant le clergé, précédé d'une croix portée par un père.
Le clergé qui rend hommage à l'ex-abbé Boganda dans des obsèques en latin, en français...
Et en sango.
En sango. Il y a quand même une fausse note là, que ne soulignent pas les dévoués journalistes. Le clergé est là, mais où sont les corps? Où est le corps de Boganda?
Le corps de Boganda, comme le corps des autres personnes qui ont péri dans l'accident, sont sur le parvis de la cathédrale de Bangui. Ils ne sont pas à l'intérieur de la cathédrale, parce que les autorités religieuses ont décrété que il était défroqué.
C'était un prêtre suspendu,
et donc il n'avait pas lieu de faire des obsèques à l'intérieur de la cathédrale.
C'est Dako qui se présente et qu'on présente comme le neveu de Boganda ou son cousin qui prend la succession. Et Dako ne va rester au pouvoir que 6 ans. Il avait de l'habileté comme Boganda. C'était un sorcier moins puissant peut-être pour la population. Mou quand il fallait être dur, faible quand il fallait être fort. Ouais. Et Bokassa prend la place. Vous avez visité le mausolée de Boganda et le tombeau de Bokassa qui se trouve être presque voisin.
Ils sont très proches l'un de l'autre. La différence, c'est que celui de Bokassa, les soldats de l'ONU qui sont installés dans le pays viennent se faire photographier devant. Il y a une grande sculpture en bronze, alors que le mausolée de Boganda est très très modeste et les seuls à y être, c'est finalement des chèvres. Il y a des troupeaux de chèvres, c'est tout. Personne ne va le voir. Il est oublié, malheureusement.
Ben, c'est un pays de jeunes, la République centrafricaine. Et les jeunes ont d'autres soucis que l'histoire.
C'est un pays aussi sans mémoire. Et c'est peut-être ça qui est dramatique. Je pense que quelqu'un comme Boganda, s'il avait vécu plus longtemps, s'il n'était pas mort dans un accident comme ça, je pense que le destin du pays aurait été complètement différent.
En 1979, Bokassa, successeur de Dacko, successeur de Boganda, est écarté par une opération militaire française. Alors vous qui avez de la mémoire, vous en comptez combien d'opérations militaires françaises, la dernière devenue internationale ?
Il y en a eu une bonne dizaine, plus d'une dizaine. Et qui n'ont pas servi à grand-chose au final. Quand on regarde la situation du pays aujourd'hui, on se dit que tout ça a été inutile et n'a pas permis de créer un véritable État, un véritable pays. Il n'y a pas... Les infrastructures sont... Enfin, on connaît tous l'État déplorable
non,
du pays.
Non, on ne connaît pas tous l'État déplorable du pays, puisque personne ne parle de la Centrafrique
personne
sauf vous.
Personne ne parle, effectivement.
Parmi les journalistes, Jean-Paul Tucquois, parce que le secrétaire général adjoint de l'ONU dit le pire pourrait être commis. Il n'y a pas eu beaucoup de répercussions à ces déclarations, étant donné qu'il y a des chefs de guerre maintenant et des milices presque partout dans le pays.
Presque partout. Il a parlé de signes avant-coureurs d'un génocide. Il n'a pas parlé d'un génocide, et je crois qu'il a raison d'être prudent, mais les signes avant-coureurs d'un génocide sont là, effectivement. C'est comme un peu en France au Moyen-Âge, quoi. Il y a des bandes armées un peu partout. Le président de la République, qui a été élu à la loyale, ne contrôle rien et se révèle lui aussi d'une grande faiblesse. Donc tout ça part à volo, sans qu'il y ait grand monde qui s'y intéresse. Il y a des casques bleus sur place, mais ils ont
12 000.
Ils sont 12 000, mais ils n'ont pas un mandat très, très robuste, je dirais. Donc, ils sont plutôt là comme observateurs. Et du coup, c'est la population civile qui fait les frais de la situation, enfin, de ces bandes, quoi. Et je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça peut tourner au tragique, effectivement.
Qu'est-ce qui vous fait revenir en Centrafrique ?
Pour un journaliste, aller en Centrafrique, on peut se prendre assez facilement pour Tintin. Les gens sont en plus très très sympathiques, très habiles, donc on les aime bien, je les aime bien.
Merci à vous Jean-Pierre Tucquois, Loubangui-Chari, Le pays qui n'existait pas, c'est aux éditions de La Découverte. Cette émission a été préparée par Frédéric Martin, avec les sons d'Élodie Maillot, la réalisation Audrey Ripouille, et la technique c'était Gilles Gaillard. On nous recommande à France Inter d'être punchy et généreux dans le passage d'antenne, Mathieu Vidard. Qu'est-ce que je pourrais dire de mobilisateur ?
La médicalisation de la naissance.
Ah, c'est vous qui le dites.
C'est mobilisateur, vous croyez, non ?
C'est pas mal, oui. Puis il faut le rappeler assez régulièrement.
C'est ça, sur France Inter.
Les consignes d'antenne. Voilà. Vous êtes sur France Inter et il nous est recommandé de ne pas annoncer la publicité.